philosophie, déjà, ça veut dire amour de la sagesse. Ce que je pense que quand on philosophe, c'est qu'on tend vers de la sagesse et qu'on a goût de ça. Et,
Bah, du coup, ça pose la question. Qu'est-ce que la sagesse?
Ah, voilà. Donc, amour de la sagesse.
Et de qu'est-ce que l'amour aussi? Ah.
Faut
définir les deux, hein.
Ouais,
moi.
On a déjà plein de problèmes, là.
Ouais. Ou le goût, du coup. C'est plus le goût de la sagesse, comme t'as dit.
Là, le goût, ça, c'est intéressant pour ce lieu-là.
Ce qui permet de faire le lien avec le titre que tu as donné à, cette, à ces entretiens. Enfin, c'est le cultivant la sagesse. Culture, sagesse, mais culture aussi, les mains dans la terre. Et pas que la sagesse. Moi, j'aurais pas mis l'amour de la sagesse sous le terme philosophie, mais plutôt un questionnement. Pour moi, la philosophie, c'est se poser des questions sur tout. Sur tout ce qui fait la vie, tout ce qui... Toutes les idées sont à questionner.
La philosophie, je le vois un petit peu comme... essayer de comprendre en discutant ou en réfléchissant. Mais du coup, on peut appeler ça sagesse, mais c'est une espèce de compréhension de ce qui se passe autour de nous, dans la société, dans le monde. Prendre du recul et arriver à voir les choses différemment.
Bah, pour moi, c'est s'interroger, du coup, pas rester sur ses acquis, mais s'interroger sur... Bah, d'autres pratiques, d'autres façons de voir, et d'élargir les possibles. Et du coup, en élargissant, essayer d'avoir plein de réponses. Et finalement, on n'a jamais la réponse, mais on a plein de réponses à disposition. Et on fait avec plein de réponses plutôt qu'une seule.
Quand j'ai commencé la première fois à philosopher, c'était en première, c'était il y a 50 ans. Et les croyances que j'avais à l'époque, qui étaient des croyances religieuses, ont volé en éclats par le questionnement, pas seulement du prof, mais aussi des autres élèves. J'ai perdu une partie de ce que je croyais, mais j'ai recréé autre chose.
Pour faire le pendant, si on a la philosophie, l'amour de la sagesse, est-ce que l'écologie, c'est l'amour de la nature ?
Mais c'est un écho interne, c'est une résonance interne que ça peut avoir en nous. C'est des réflexions qui nous sont propres, c'est des projections qu'on peut construire aussi, nous, dans notre vie, soit au quotidien, de manière plus généraliste. Il y a un côté très très personnel, très intérieur.
Donc, des fois, on a un peu l'expression de « c'est ma philosophie », où du coup, ça rapproche à vraiment sa manière de voir le monde, de l'apprendre et de le vivre aussi.
Est-ce que pour faire avancer, on n'a pas besoin de se confronter ? Confronter des idées ? Parce que nos idées à d'autres idées, pour qu'ensemble on puisse bouger, quoi.
C'est marrant parce que tu dis ne pas rester planté, ça veut dire ne pas rester plante et être animal mouvant, tu vois.
Les plantes, elles bougent, même si elles sont plantées, elles bougent.
Pour moi, c'est plus quelque chose de collectif, d'échange d'idées, de quelque chose qui circule.
Peut-être un antagonisme dans le sens où quand on dit « c'est ma philosophie », au final, c'est comme si c'était un axe, une direction. Alors que quand on parle de la philosophie au sens de discipline, souvent au contraire, c'est peut-être plus l'ouverture, la discussion.
J'aime bien, je crois que t'as employé le mot circuler, ça circule. Je trouve que ça marche bien parce qu'il y a cette idée de transmission, cette idée de partage, de pédagogie aussi peut-être dans un sens. Même si c'est personnel, c'est pas quelque chose qu'on garde pour toi, pour soi, c'est aussi fait pour être partagé et du coup s'enrichir.
Être sage, ça a une connotation aussi, nous, comme on l'utilise, de la personne qui est un peu dans son coin, qui fait ce qu'on lui demande, qui fait pas de bêtises. C'est ça, être sage, mais d'un point de vue plus spirituel.
Après, il y a aussi le sage. C'est pas l'enfant dans son coin.
Non, mais tu vois, déjà, avec la conception d'âge, comme ça, c'est connoté différemment.
Une question de connaissance, quoi, qui a beaucoup de connaissances aussi.
Et être sage, pour moi, c'était pas... se tenir tranquille, c'était être sage comme tu l'entends, comme tu l'as exprimé, c'est-à-dire quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse, qui est devenu sage grâce à des études, des questionnements et qui prend du recul par rapport à sa vie. Et pour moi, c'est pas très occidental, la sagesse.
Moi, le mot sage, je l'ai rencontré pour la première fois dans un livre pour enfants sur l'Afrique. C'était pas oriental.
D'accord.
C'était le vieux du village qui est assis en tailleur devant un vieil arbre et les gens vont vers lui pour lui poser des questions et qu'il puisse leur apporter des réponses à leur quotidien parce que lui il a le recul, comme tu dis, le recul.
Ce qui du coup rejoint un peu l'image de l'enfant sage qu'on a qui est calme, qui est posé, qui fait pas de bruit, de tremblement, de... Enfin, voilà, qui inspire une énergie assez, assez posée, assez ancrée. Et les réponses du sage, enfin, dans cet imaginaire-là, elles sont rarement celles qu'on attend. C'est souvent soit d'autres questions, soit des réponses un peu énigmatiques. Et peut-être que ces réponses-là, c'est des réponses philosophiques, du coup, parce qu'elles vont inviter à soi-même s'élever et entrer un peu dans cette sagesse, ou commencer à se poser peut-être d'autres questions qui y mènent.
Ça amène l'idée que le sage, c'est la personne qui n'est pas agitée. Enfin, tu as utilisé le mot tremblement, mais c'est la personne qui n'est pas troublée par les mini-aléas du quotidien et qui va être ancrée et posée.
J'ai envie de grandir ensemble sur l'objet écologie. J'ai envie que, en tout cas sur ce sujet-là, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, et j'ai envie de pouvoir confronter mes idées à d'autres. Argumenter, j'ai envie d'être contredite ou dans un cadre bienveillant.
Je suis preneuse d'ouverture, d'échange, d'enrichissement, et c'est pas tant un affrontement quand on parle de confrontation, etc. Je suis pas du tout dans cette mentalité là, c'est plutôt poser sur la table peut-être mes propres conceptions, mes propres idées, et voir comment ça résonne chez les autres. La
confrontation, ça me parle pas trop, c'est plus on est tous sur un même territoire et on essaye de comprendre ce territoire et de trouver comment vivre dessus plutôt que d'être chacun sur une position et de défendre chacun son territoire.
Au final, même si c'est pas des confrontations dans la violence physique, ça peut parfois faire mal de remettre en question ses croyances, ses idées et d'accepter que il y a d'autres manières de voir les choses, et je pense que la philosophie, elle aide aussi à prendre cette hauteur qui permet de questionner et de pouvoir justement être un peu sage et savoir qu'on n'a pas raison sur tout et que d'autres points de vue, d'autres perceptions existent aussi. À quel point la philosophie, quand ça remet en question le sens même de la morale, du bon, du mal, ça chamboule tout et ça laisse un peu sans rien.
Moi, l'idée du territoire, ça me parle. C'est genre, on met la philosophie en truc à plat, comme ça, c'est un champ, et genre, chacun est dans son espace et on essaie de se rencontrer. Et genre, ça devient un truc physique en 2D, quoi. On cultive chacun nos propres opinions dans notre coin, et puis après, ouais, on fait un jardin partagé au milieu, on essaie de faire des choses ensemble.
J'aime beaucoup cette vision des choses.
En quelque sorte, un combat pour faire en sorte que notre maison, du coup, comme tu disais, éco, soit en bonne santé, aille bien, ou qu'on s'y sente bien. Il y a aussi l'idée qu'on n'est pas tout seul dans l'écologie, il y a tout un réseau.
Chercher à s'interroger sur l'équilibre entre l'homme et la nature. Bah, l'homme, il vit, il fait partie, ou en fait, on peut considérer qu'il fait partie de la nature. Puis après, voir comment l'équilibre... est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que l'équilibre a été rompu? Comment est-ce qu'il peut être ramené? Enfin, ces questionnements entre l'homme et puis la nature à côté, qui peut être vue comme sa maison, ou pas, justement.
Au début de l'écologie, c'était il faut prendre soin de la nature, mais genre nous, on est dans notre ville, et puis on prend soin de la nature autour, là-bas, qui n'est pas chez nous, quoi. Mais on veut qu'elle aille bien, mais on ne sait pas trop, en fait. On y va de temps en temps, 2 heures le week-end, quoi. Et puis petit à petit sur les slogans qu'on voyait dans les manifs et tout, on a commencé à voir apparaître je suis la nature qui se défend, enfin nous sommes la nature qui se défend, à dire on inclut l'humain dans
Ouais, pour moi c'est la question de comment habiter ensemble. Avec le ensemble, c'est tous les êtres vivants, et l'homme s'en est un parmi d'autres.
Mais il y a aussi une part de moi qui est un peu perdue face au mot d'écologie, parce que c'est quelque chose qu'on emploie de plus en plus, et d'un côté tant mieux. Mais je trouve que du coup, il perd un peu de son sens quand on parle de parti écologiste, quand on parle d'écologie punitive, des choses comme ça. En fait, on met plein de mots derrière, enfin même transition écologique, on met plein de choses autour de ce mot que... Du coup, on perd un peu le sens de ce que ça veut dire.
C'est d'arrêter d'aller contre les lois de la nature, mais plutôt essayer de s'inscrire dedans et de vivre dans le flow, dans le flux de tout ce qui peut se passer dans la nature à tous les niveaux.
Une espèce de projet de société, plus ou moins, de manière de vivre ensemble et vivre avec notre environnement, et qui peut être appréhendé ensuite de plein de manières différentes, mais qui pose un peu une base de ce qui est bon pour nous et notre environnement.
Du coup, ouais, ça se transforme presque en religion en disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez. On a bien les réponses. Tu te demandes quoi faire, achète une brosse à dents en bambou. Quoi, ouais. Non, parce que, voilà, te pose plus de questions, t'auras tout fait ce qu'il fallait.
Ce qui n'est pas évident, c'est que l'écologie actuellement, c'est un mot à la mode.
Oui.
Et effectivement, qui a plein de sens parce qu'il est utilisé dans plein de domaines différents.
Prise de conscience de la place de l'humain dans cet environnement, des interdépendances qu'il a avec lui. Et du coup, un questionnement sur comment vivre au mieux, comment en prendre soin, comment arriver justement à cet équilibre et qui permet en fait à l'humain de continuer à vivre. Enfin, cette espèce de boucle de rétroaction de l'humain a besoin de son environnement, mais il a des impacts sur lui, mais du coup, l'humain doit faire attention à son environnement pour pouvoir continuer à vivre.
En fait, c'est par rapport à l'extraction, au moment que l'homme a fait. De son environnement en se mettant sur un piédestal par rapport au reste, en fait, bah, du coup, il a pris de soin de lui-même parce que bah, on prend soin de soi et en fait, c'est cette extraction qui a fait qu'on a plus pris soin de l'ensemble.
On s'est rendu compte que la planète était finie, qu'on était dans, qu'on dépensait des ressources qui ne pouvaient pas être acceptées et supportées par la planète, d'où une prise de conscience. Pour certains, de la nécessité de changer de société.
Mais du coup, il y a une sorte d'écologie spontanée qui pourrait être de se dire « Ok, je veux être en équilibre avec la nature » et l'écologie forcée de contrainte, de se dire qui est toujours utilitariste finalement, de se dire « Ah bah, c'est pour ma propre survie, c'est pour moi, donc je prends soin de la nature. »
Dans ce que j'ai amené, il y avait justement cette question de la prise de conscience à un moment donné que... l'humain dans sa manière de vivre détruit son système, tout ça, mais du coup qui amène des questionnements vraiment aussi très éthiques, moraux, tout ça, sur quelle est notre place en fait.
Justement aux vieilles civilisations, je pense aux Amérindiens tout de suite qui inscrivaient déjà leur vie au sein d'un aspect de la nature.
D'une société, mais une certaine société qui s'est rendue compte des limites de sa logique.
Bon allez les petits loups.
On a eu quand même une grosse question qui s'est posée ici par rapport à l'abattage d'un arbre. Et je trouve que ça a relevé une question très intéressante dans ce lieu et dans la nature en général, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que la main de l'homme peut intervenir dans l'environnement sans se considérer abuser de cet environnement ou ne plus respecter justement les règles de l'écologie. En fait, quand je suis arrivée dans ce jardin-là, moi c'est ce que je t'avais expliqué une fois, c'est qu'il y avait beaucoup cette impression que c'était un sanctuaire auquel on n'avait pas trop le droit de toucher parce qu'on aime la nature, on aime comment elle prend forme d'elle-même, on aime comment les choses se plantent, les arbres peuvent se planter tout seuls, les plantes peuvent pousser où elles veulent, et c'est vrai que ça a son charme et c'est chouette. Mais ça reste un jardin, donc ça suppose aussi l'intervention de la main de l'homme pour le cultiver, pour lui faire des choses. Mais forcément, dès qu'on intervient, ça bouleverse l'ordre naturel.
C'est la place de l'homme dans ce jardin, et de l'homme avec les autres hommes, avec des consciences différentes, avec des sensibilités différentes.
Moi, je n'étais pas présente, mais du moment que ça conserve l'écosystème du jardin, il n'y a pas de souci.
Justement, à quel point, qu'est-ce que l'écosystème du jardin? Est-ce qu'on considère que cette noisetier qui s'est plantée tout seul et puis qui a fait sa vie et puis qu'effectivement dont les branches servaient aux mésanges pour se déposer de temps en temps, qui était très poétique, etc. Est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il faisait partie de cet écosystème et qu'on devait l'y laisser? Ou est-ce qu'on avait le droit, consciemment, dans le respect de l'écologie, de l'enlever? En fait, tu vois, c'est...
Bah moi, je ne m'y connaissais pas assez en écosystème, mais je sais qu'il y a des règles, en fait, pour que les arbres cohabitent.
Ce choix humain qui... La personne qui a décidé que cet arbre, c'est moins bien ou moins intéressant que les deux autres.
Pas moins intéressant.
Au terme des biomasses, un arbre ou deux. À la fin, si vous avez un jardin et vous faites partie du jardin, c'est à vous de faire des décisions sur le jardin. Si vous voulez laisser la nature agir toute seule, bah. Vous ne faites rien, vous ne savez pas le jardin.
Pour moi, le jardin, c'est le soin que l'homme prend pour favoriser et la beauté et la croissance, mais aussi de l'harmonie.
Tu emploies certains termes, genre harmonie, machin. Ça n'existait pas, ça existe ici. C'est nous qui nous décidons qu'est-ce que c'est l'harmonie. En fait, si tu laisses les jardins tout seuls, et il aura un équilibre, il n'y a jamais un être vivant qui prend toute la place. Parce que quand il prend toute la place, il va mourir parce qu'il avait soin des autres. Donc il y a les équilibres naturels qui se font tout seuls.
C'était pas pour une question d'harmonie, c'était pour une question de survie des autres espèces en dessous.
C'était un calcul.
Non, c'est pas un calcul, c'est une expérience.
10 arbres ou un seul.
Tu parlais des valeurs et des fondamentaux de ce jardin. Ce que je fais ici, dans ce jardin, c'est d'essayer de continuer à entretenir ces valeurs-là. C'est-à-dire de faire en sorte que ce jardin continue ne devienne pas la forêt d'à côté. Voilà.
Mais c'est intéressant de voir cette confrontation entre le pragmatisme de la stratégie jardinière, c'est vrai, là c'est des mathématiques, c'est voilà, s'il y en a un qui pousse, il va gâcher les autres, etc. Et le côté peut-être plus spirituel, philosophique, poétique d'un jardin pour certaines personnes pour qui ça a bouleversé justement l'harmonie qui s'était fait, la vision de l'harmonie qui s'était fait dans ce jardin.
C'est pas du tout réductible à une pragmatique ce qui s'est passé avec l'arbre, c'était pas un esprit froid de calcul, c'était quelque chose au contraire qui soutenait un certain système de valeurs.
À quoi on peut comparer, opposer, rapprocher cette idée de jardin?
Moi, le terme auquel je pense, mais qui serait plutôt l'opposé du jardin, ce serait l'opposé en termes d'intervention humaine.
Oui.
Ce serait la réserve. C'est-à-dire, c'est un lieu où, pour le coup, là,
aucune intervention.
On a sanctuarisé la nature et on veut qu'il n'y ait strictement aucune intervention.
Une réserve, c'est un jardin sauvage, si vous voulez jouer avec les mots.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas deux mots, jardin et sauvage, qui du coup s'opposent?
Un endroit qu'on a choisi d'être une réserve, à la fin, c'est une construction aussi humaine. On ne touche pas. Et parce qu'il faut qu'on fasse un effort humain pour que les autres humains ne rentrent pas.
C'est pas de l'interventionnisme. C'est comme si tu disais qu'un médecin mettait la main sur un patient.
S'il fait une chirurgie, il met la main dedans.
Quel espace vous mettriez dans l'intervention
maximum.
C'est-à-dire
de l'homme.
La ville.
Oui. La ville. Je penserais à la ville.
Non, mais justement, là, on est dans une construction.
Purement, oui. 100% purement. Humaine.
Ouais.
Mais dans lequel il y a quand même eu un écosystème qui est en train, où on l'observe de plus en plus, de se développer au final et où la nature, elle n'a pas la zéro place.
Quand certains primitifs coupaient les arbres, avant, ils priaient pour enlever les esprits des arbres. Déjà, vous n'auriez pas eu le sentiment d'intervenir ou d'abattre, vous auriez demandé à la nature, d'une certaine façon, son autorisation.
Alors, ça aurait changé les choses pour les personnes qui ont coupé l'arbre.
Oui, voilà, je pense que
ça aurait changé rien au niveau écologique.
Peut-être que l'espace sauvage, donc sauvage, ça veut dire que il n'y a pas de règles. Enfin, alors en France, je pense qu'on n'en a plus beaucoup, mais dans le monde, je pense qu'il y en a encore à certains endroits. Je pense à la forêt amazonienne, je pense à l'Antarctique, c'est des endroits où il n'y a quasiment pas l'homme. Il n'y a pas de règles, ce n'est pas une réserve.
Sauf qu'il y a des tribus qui vivent dans ces espaces et qui ont un rapport à la nature qui est aussi très très particulier, très proche de ce dont tu parlais tout à l'heure. Avec du respect, mais avec une intervention sur la nature, des prélèvements animaux, des prélèvements végétaux, des abattages d'arbres, des cultures éventuellement.
Tu peux définir un concept abstrait facile, c'est le concept des trajectoires. T'as un système, il a une certaine trajectoire, et à chaque fois que tu fais une intervention sur le système, ou tu interagis avec le système, ce système va changer de trajectoire. Le problème, c'est que quand tu as un système complexe, genre un écosystème, tu fais des interventions et tu ne peux pas voir facilement quelle est la trajectoire dans laquelle tu amènes le système.
Si on revient sur l'histoire des jardins, l'étymologie du mot jardin, c'est paradis. Un jardin est un paradis clos.
Les degrés d'organisation d'un endroit sauvage est beaucoup plus élevé qu'un endroit qui est fait artificiellement. Parce que l'endroit qui est fait artificiellement, il reflète la connaissance qu'il y a de la nature en ces moments.
plus on progresse, plus on avance dans le temps, et plus on avance sur les questions de permaculture, etc., et plus on se rend compte que les espaces ressemblent à des espaces, en tout cas se rapprochent d'espaces sauvages.
Les évolutions actuelles de la permaculture, c'est la forêt-jardin. Sauf que tu reproduis la forêt et tu mets le jardin à l'intérieur.
Mmh. En fait, tout est question de dosage. L'idéal, ce serait pouvoir arriver à quelque chose qui se tend vers le sauvage, mais avec un dosage très subtil de l'intervention humaine.
Le jardin, il a au moins deux objectifs. Il y a le côté utile, c'est-à-dire de produire quelque chose qui nourrit, et de construire un endroit où on se sent bien.
Pourquoi on se sent bien dans le jardin ?
On se posera la question.
Si les humains intervenaient sur la terre comme ils interviennent dans un jardin, c'est-à-dire en respectant un certain nombre de règles sur l'intervention. Je ne sais pas si c'est l'intervention.
C'est ça.
Est-ce que ça n'aurait pas besoin d'avoir des lieux clos ?
On pourrait pousser la chose jusqu'à dire qu'on vivrait dans un jardin. Dans un jardin géant où il y aurait de l'harmonie, de la paix et la respiration qui serait imbriquée là où on habite. Ouais. Et c'est vrai qu'on a plutôt créé des villes, des zones de concentration qui font qu'on va trouver le vert et la respiration et l'aspect naturel ailleurs, dans un jardin. Et puis si on étend le jardin aux réserves, qui sont des zones aussi délimitées, il y a une séparation, pas systématique, mais en tout cas par endroit, entre là où vit l'homme dans la ville et ce qui est à côté, qu'on peut appeler jardin.
Je pensais à partir de la sédentarisation, donc à partir de l'agglomération d'humains ensemble, donc à partir de la création des villes, pour moi ça va ensemble.
On a des traces de jardins en Mésopotamie, dans le monde arabo-musulman, on a des traces de jardins en Chine, au Japon, dans des temps immémoriaux. Mais ce qui guide ces créations de jardins, c'est de retrouver le jardin d'Éden.
Peut-être des gens qui n'aiment pas les jardins, ils préfèrent être dans la ville, non ? Ça doit exister, hein ? Ils n'aiment pas trop la nature.
Alors, la beauté de la nature, pour les scientifiques, fait absolument l'unanimité.
Ah bon ?
C'est-à-dire que c'est le seul sujet esthétique qui, en termes de bien-être, parce que suscite, pas sur l'organisation de la nature, pas sur quelle fleur on va mettre telle, mais la fleur en tant que telle ou l'arbre en tant que telle, génère, et on ne sait pas pourquoi, c'est un mystère, une totale unanimité.
Si on abat les murs, si on ouvre, est-ce que c'est une façon de mettre en relation le jardin avec son extérieur ? Est-ce que c'est pas paradoxal que ce lieu clos puisse être ouvert vers l'extérieur ?
Pour moi, le jardin, c'est à l'image de l'intériorité, c'est-à-dire que si on n'a pas un sanctuaire à l'intérieur de soi, où aller se recueillir, ou aller écouter le silence, ou aller écouter, mais même pour les oiseaux, les oiseaux ont besoin que les jardins soient des lieux clos en ville. Le jardin, en fait, c'est l'espace qui permet à l'homme de se recueillir de manière laïque, sans avoir à être dans un monastère, d'entrer en retraite du négocium. L'exemple du jardin ici, il me semble que c'est ça, c'est un espace de vie démocratique, puisqu'il y a un respect de l'écologie relationnelle.
Un jardin, c'est un groupe de personnes, ou une personne, ou plusieurs personnes, mais du coup, à qui ça s'adresse ? Donc, qu'est-ce qui est réservé dans un jardin ? Ou à qui est réservé ?
Avons-nous besoin d'un jardin pour vivre en société ?
Avons-nous besoin d'un jardin écologique ?
On peut être sur l'écologie. Là, c'est pas forcément l'écologie environnementale, mais c'est plus l'écologie dans le sens prendre soin de soi.
Le jardin dépasse-t-il le critère d'utilité que nous appliquons à toutes nos existences ?
Là, on n'a pas avancé le sujet, c'est se prendre soin, ça veut dire définir des règles, comment on les définit, qui les définit, en quelle mesure définir des règles, c'est respecter la nature.
Le jardin est censé être clos, sauf qu'il existe des jardins qui ne sont pas clos. Ouverts sur la cité.
Ils sont circonscrits.
Il est délimité physiquement.
Délimité physiquement, mais pas clôturé.
Il est très important d'avoir des jardins clos, des jardins ouverts, des jardins qui font du potager, des jardins qui utilisent telle chose, avec des esthétiques différentes.
Qu'est-ce que le jardin apporte à la cité ?
Non, après, je pense que la question de l'ouverture fermeture, on peut la réfléchir déjà en rapport direct avec la pratique du jardin, en quoi ça l'ouvre. Alors, faut pas voir ouverture, fermeture que c'est-à-dire positif, négatif. Mais c'est surtout voir des dynamiques, quoi. Alors, l'ouverture intérieure, ça passe par une sorte de, d'isolement. Mmh. Oui. Mmh. Donc, c'est comment tout ça, ça se joue dans la pratique du jardin. Comment c'est, enfin, l'idée que cette pratique, si on l'a finalement, la caractérise comme étant ce qu'il y a de plus proche en termes de rapport écologique, d'interaction écologique entre l'être humain et la nature, savoir comment ce lieu-là, cette pratique-là qui sont particuliers, qui peut-être se répandre, se diffuser en dehors.
Le jardin planétaire, c'est un concept de Clément, de Gilles Clément, qui est un grand paysagiste et qui parle du jardin planétaire. C'est, pour lui, la Terre est un jardin.
Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ouverture? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la fermeture?
Fermeture, ça peut être isolement.
Voilà, c'est ça.
Ça peut être aussi préservé.
Parce
que, oui,
voilà. Ouais. C'est pas forcément refuge. Parce que comme le lieu de vie de l'être humain, c'est de plus en plus la ville, le jardin, c'est des lieux où on retrouve un contact avec la nature. Et ça permet du coup de s'ouvrir justement à ce qui n'est pas la ville. Donc s'ouvrir aux animaux, aux plantes. Voilà, moi j'avoue que je le vois comme ce lieu de contact avec la nature et du coup un petit peu de des lieux dans lesquels on peut se ressourcer. Hein, si vraiment on voit,
Que ces petits espaces de verdure soient au cœur de la ville, des ouvertures sur la nature environnante.
Ouais.
C'est ça, en fait, c'est un peu comme des poupées, comme ça, les poupées gigognes. Hein,
ah,
c'est ça, c'est que on a l'environnement global de la planète Terre. On a le carcan des cités, et dans le carcan de la cité, on peut avoir des petits espaces verts qui nous permettent d'avoir un rapport à ce qui est en fait à l'extérieur.
Moi, je l'ai senti comme une façon de sortir d'un endroit clos, son domicile, pour aller vers des endroits ouverts, ouverts sur la nature, ouverts sur les animaux. Et c'est un lieu où on peut réaliser cette ouverture.
Dans le jardin, il y a quand même un rapport privilégié, je pense, avec l'élément naturel, parce que justement, on intervient dessus.
Oui.
Alors, on n'est pas en tant qu'observateur, on est en tant qu'acteur. Là où dans la nature, je pense, non jardin, on serait peut-être plus acteur, on serait peut-être plus observateur seulement de la nature. Là, dans son jardin, même à la campagne, on est vraiment
acteur. Voilà, on est acteur. Que ce soit individuel ou collectif, que ce soit un jardin pour soi ou un jardin partagé, il y a une action.
Est-ce qu'on peut pratiquer le jardin sans jardiner? Vous voyez ce que
Le jardin public, tu ne pratiques pas.
Voilà, c'est ça.
Le jardin public, tu es dans un jardin, mais tu ne pratiques pas.
Je pense qu'on peut consommer le jardin sans être acteur, mais par contre, au niveau de la perception des gens ou de ce qu'ils vont attendre du jardin, quelqu'un qui habite en ville ne va pas attendre la même chose et ne va pas aller chercher la même chose dans son jardin que quelqu'un qui est à la campagne. C'est que dans le jardin, du coup, il n'y a pas nécessairement d'action.
J'ai une image un peu très concrète du jardin des plantes sur lesquelles il est utilisé pour différentes raisons, soit le pique-nique, soit simplement lire, soit se mettre le dos contre l'arbre et puis rêver, déconnecter, bronzer, se mettre dans la pluie, bronzer, sentir les roses, mettre le nez dans les roses. Faire le tour de la serre botanique, jouer, parce qu'il y a des enfants qui jouent aussi. Il y a des utilisations du jardin public qui, même si on n'est pas acteur, on est acteur quand même. On est acteur parce que on agit sur les lieux, on agit sur simplement en posant son dos sur l'arbre, on agit sur l'arbre.
Tu fais partie intégrante du jardin quand tu y es, alors que l'artiste ne peut que contempler de l'extérieur son œuvre ou toute œuvre.
Ça, c'est intéressant. Ouais.
Alors que c'est vrai que là, à partir du moment où tu mets les pieds dans un jardin, tu fais partie de l'ensemble.
Physique, psychologique aussi, sensoriel, intellectuel aussi, si tu compares les jardins que tu as déjà vus, et que ça peut être aussi un peu intellectuel, un peu.
Je sais pas, mais peut-être qu'on en tire la même conséquence, qu'on soit là en simple contemplation ou en jardinage. Souvent, les gens repartent en disant qu'ils sont vidés de leur stress, apaisés, que ce soit grâce au contact de la terre, que juste en admirant ce qu'il y a autour. Et le rapport privilégié, il tient peut-être principalement du fait que l'être humain dans un jardin revient dans son environnement originel.
on espère quand même, les jardins qu'on trouve agréables, c'est pas les jardins sur le bord de l'autoroute, toujours, trouver un certain apaisement. Et de là, on est, je pense, isolé positivement de la cité et du tumulte créé par la vie des êtres humains ensemble. Quoi.
Ça favorise le recueillement.
Ouais.
C'est propice au recueillement et à l'introspection, peut-être. Et en ça, c'est peut-être une fermeture. Si tu es sur toi.
Une bulle.
Peut-être.
Alors, mais c'est pas du coup du tout en opposition, au contraire, je pense, avec l'idée de retour aux sources. Parce que pourquoi est-ce que l'homme, moi, ce que j'explique pas, c'est pourquoi au moment du confinement, par exemple, les gens, ils se sont rués sur les parcs. Les parcs étaient là avant. Quoi.
Pour moi, même dans un petit jardin cloisonné, qu'on ferme à clé, je suis en mode ouverture.
Contrairement à l'appartement de la maison dans lequel tu es en fermeture. Tu es en fermeture.
C'est exactement ça.
La fermeture, ça serait la maison, le lieu où on vit. Et l'ouverture, ça serait la nature, le jardin,
tout ce qui est en dehors des quatre murs.
Tout ce qui est en dehors des quatre murs.
Dans lesquels on évolue. Que ce soit
entouré de murs, fermé à clé ou pas. Ouais.
Et même, tu vois, le jardin, je trouve, prend son sens de jardin partagé quand on déloque, quand on ouvre le grillage. Enfin, sinon, c'est un lieu verdoyant fermé dans lequel il n'y a personne et il ne se passe rien. C'est plus lors d'un parc ou quelque chose comme ça. Et il devient un jardin au moment où on ouvre la serrure et les gens entrent et puis ils peuvent aller jardiner ou se rencontrer, discuter, etc.
Ça n'empêche que c'est quand même un jardin, mais ce n'est pas le même jardin. Ça reste un jardin. Il est cultivé, ça reste un jardin, mais ce n'est pas le même.
Parce qu'il n'y a
pas d'action humaine.
Donc pour toi, un jardin peut être un jardin sans aucune action humaine.
Mais il faut peut-être qu'il y ait des actions humaines avant pour en faire un jardin. Mais ensuite, s'il n'y a pas d'action humaine et si le jardin est fermé, le jardin devient peut-être tout doucement autre chose qu'un jardin.
On protège un peu l'espace jardin de l'espace naturel sauvage. Et si on n'a pas de protection, alors qu'ils sont d'ailleurs adaptés en fonction des dangers d'ailleurs, hein, si on n'a pas, à la limite, il peut y avoir très peu d'éléments de protection.
Je ne pense pas qu'on a le même rapport au jardin en fonction du type de jardin que l'on a.
Du cadre, l'environnement du jardin lui-même. Oui. Tu parlais des formes, il y a aussi justement la délimitation, le cloisonnement. Dans quoi se situe le jardin? Dans quel environnement
quel contexte.
C'est sûr que s'il se situe dans un environnement naturel comme la campagne, etc., il prendra moins de valeur aux yeux de quelqu'un qui, de l'autre côté de la limite, de la barrière, aura de l'urbain.
C'est marrant parce que je pense que derrière, il y a un peu l'idée de besoin primaire, on va dire, qui est le besoin, c'est manger, quoi. Et la nature, jusqu'à présent, l'a beaucoup été vue comme un moyen de fournir à manger, quoi. Et peut-être en oubliant le fait que la nature, c'était aussi un lieu où l'homme, dont l'homme a besoin, au-delà de juste l'aspect nourricier.
C'est aussi que pour notre bien-être, notre équilibre, on a besoin de s'y retrouver. On vient de là. Et en fait, plus on s'en éloigne, plus on se rend compte que ça nous tue à petit feu, parce qu'on la pollue, parce qu'on s'en éloigne aussi physiquement. Quand on n'y est pas, ça nous fait du mal.
Ça répond à plusieurs besoins, en fait. Ça peut répondre aux besoins nourriciers, mais aussi aux besoins de spiritualité.
On commence à prouver que c'est bon pour la santé de s'y retrouver. Alors après, le lien à la spiritualité, il va nous falloir encore du temps pour pouvoir mettre des rapports scientifiques dessus et prouver que c'est important aussi pour notre âme.
Vous pouvez vous entendre sur ce que vous mettez derrière cette notion-là.
À l'endroit où il y a des plantes, il y a des animaux et il y a des gens qui vont dedans. Et ils font interdit avec... C'est créé, organisé, transformé par l'être humain.
Oui. Et après, ça peut être... Si c'est abandonné, on peut appeler ça une friche, ou on peut appeler ça autrement, mais le jardin, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est en construction.
Tel qu'on l'a défini là, c'est-à-dire en parlant d'intervention humaine, au final, on rejoint la notion de jardin potager.
Oui.
Parce que du coup, il intervient pour produire, pour apporter la nourriture. Un jardin qui est plus jardin de ville... y a des gens qui en profitent, mais il y a aussi des jardiniers qui viennent dedans pour travailler les buissons, les tailler, etc. Et si on prend un jardin de château, c'est un peu pareil. Les jardins à la française, on l'avait évoqué au début, qui sont vraiment des jardins où c'est vraiment l'aspect esthétique qui est... Mais il y a des gens qui interviennent, qui viennent regarder. Voilà.
La différence avec un parc.
Et le parc, le parc là aussi, il y a des jardiniers de ville qui viennent intervenir. Mmh. Mais il y a moins l'aspect beauté. Là, c'est vraiment purement permettre aux gens de la cité, si on prend le ST en tant que ville, de venir profiter de l'espace vert là où il n'y en a pas dans la ville. Mm-hmm. Je trouve que si on se limite à la notion d'intervention humaine sans avoir en tête la notion de potager, de production, on arrive à regrouper quand même les différentes notions de jardin, il me semble qu'on a abordé durant les différentes séances.
Et moi, je rejoindrais Chantal en disant au niveau des sens, c'est-à-dire il fait du bien, mais c'est un endroit, donc, comme tu disais, Andrés, où il y a des plantes, un espace vert où l'homme vient.
Ouais.
Mais il fait du bien à l'homme, mais par tous les sens.
Et il répond aux besoins. Donc, on avait dit la dernière fois qu'il y avait des besoins primaires, oui, alimentaires.
Voilà, c'est ça, c'est par la bouche, ça peut être par la bouche, ça peut être par
plein. Même spirituel. On était allé jusqu'à aux besoins spirituels.
Pour la pyramide de Maslow, ce serait la panacée. Hein. Mmh. Il y aurait tous les niveaux de la pyramide qui seraient remplis
par
jardin. Le jardin est plus considéré à proprement parler comme une ressource, mais quelque chose à quoi je donne quelque chose. Enfin, comment expliquer ça? Ça vient plus de répondre à mes besoins.
C'est quoi un besoin? On essaye de décaler une définition qui peut englober les intérêts des personnes qui sont différentes. Donc, un endroit où les gens vont. Et chaque personne qui va à cet endroit va chercher des choses différentes.
Anthropologiquement, la première fonction du jardin, vraiment la fonction première archaïque du jardin, elle n'a rien à voir avec une dimension individuelle. C'est une dimension collective et qui était faite, on faisait un jardin pour remercier les dieux de nous avoir donné quelque chose de la terre, de ce qu'ils nous donnaient. On les remerciait. Donc, ça veut dire que chacun y trouve son compte personnel, c'est quelque chose, mais la première fonction, c'était une fonction communautaire, et la première fonction, c'est une fonction spirituelle, de rapport à quelque chose qui nous dépasse.
C'est intéressant parce que dans ressources, il y a source, et que j'en ai un peu parlé ça la dernière fois, c'est que l'homme revient à ses origines, il revient dans son milieu naturel de base. La source de sa vie, la source
d'accord. De la ressource, oui. Et les conséquences de considérer que la nature est une ressource, ça est qu'on éventuellement la privatise, éventuellement on la fasse payer, éventuellement. Voilà, c'est des conséquences éthiques, le fait d'employer certains mots.
C'est
très important de ne pas utiliser ce mot. Ressources humaines, ressources naturelles, tout ce qui est considéré.
Non, mais propose-nous.
Source.
Le mot, c'est.
Un lieu source.
Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça de vie où l'homme
de sa ressource
fait quelque chose et trouve autant de réponses à ses besoins?
Bah, l'église.
Ouais, mais autant
à ses besoins. Il se nourrit dans
l'église. Je
pense que ça répond pas aux besoins primaires.
Si il joue au foot.
Il
reste
bloqué sur spirituel. Ouais.
Après, l'homme est un être social. Est-ce que dans le jardin, il doit y avoir une dimension d'interaction sociale? Eh bien, est-ce que un jardin peut être pas la propriété du tout, c'est pas le terme qui vient, mais est-ce que ça peut être à une seule personne sans lien social?
Tu peux avoir un jardin qui
est
personnel et où tu ne fais rentrer personne. Mais c'est quand même assez rare, quand même. Mais ça existe. Il y a des jardins qui sont créés par une vieille dame qui ne veut pas que personne ne rentre dans son jardin. Pourtant, c'est un jardin. Mais la plupart du temps, ce sont des jardins, sur des jardins qu'on aime bien montrer.
Et pourtant, la dimension sociale, l'homme ne peut pas s'en passer. Donc, ce n'est pas tous les besoins. Non. Ce besoin-là n'est pas forcément
requis. C'est un besoin de solitude. Ce
n'est pas forcément requis dans un jardin.
Non.
En fait, ça dépend de ce qu'on entend par relation.
Ouais.
Parce que si par relation, on entend relation exclusivement aux êtres humains, le besoin relationnel, il n'est pas comblé, effectivement.
Social.
Mais si par relation, social. Et si par relation, on entend relation avec un vrai regard sur les choses et un ressenti de dialogue, ce qui peut tout à fait y avoir avec une rose, avec un arbre, alors là, le besoin relationnel est comblé.
On en vient au jardin secret, entre guillemets, ça a un double sens aussi. Qu'il y aurait un petit jardin secret vert, est-ce que ça reste quand même un jardin, et pourtant il n'y a pas de sociabilité à l'intérieur.
Non, ce n'est pas une obligation.
Par contre, on en revient probablement à la notion de combler des besoins, et là, de combler ses besoins à lui.
Mais ça pose la question du bonheur, de la vie heureuse. Si le jardin répond à un besoin d'autarcie, et que dans cette autarcie, on peut imaginer qu'en autarcie, on puisse être heureux, alors le jardin convient bien, remplit bien son besoin.
En étant heureux, indirectement, il va rayonner aussi sur les autres, et du coup, socialement, ça peut favoriser l'insertion sociale. Au même titre que apporter la nourriture issue du jardin, ça améliore les relations sociales.
Pardon, Andrés ?
Pour moi, s'il est content, il ne va pas devenir un problème.
Voilà, mais oui, c'est effectivement. De toute façon, il y a des jardins, il y a des jardins d'insertion aussi, et on peut aussi voir ça comme ça. Enfin, c'est pour ça que moi, je trouve que dans cette définition extensive du jardin, en tout cas, personnellement, je me sens plus au clair avec...
Mais te font au moins un humain pour un jardin.
La confrontation, justement, c'est-à-dire partout ailleurs, en fait, l'être humain s'épuise, pas forcément d'une manière négative, c'est qu'il dépense de l'énergie à faire toutes sortes de choses, soit dans la cité, dans son travail, dans sa famille, toutes ses activités, et qu'il revient dans le jardin pour se ressourcer.
Pour moi, il y aurait un vrai mouvement dialectique si, du fait de l'expérience du jardin, ça modifiait la société en retour. C'est-à-dire que si on refusait de s'épuiser au nom de cette expérience au jardin.
Est-ce que le jardin a un sens aujourd'hui dans notre société uniquement comme un lieu finalement distinct, séparé de la cité dans lequel on va venir se ressourcer pour trouver un rapport à la nature, un rapport aux autres qu'on trouve nulle part ailleurs dans la cité. Donc du coup le sens du jardin ça serait ça comme excusez-moi de faire rapprochement d'une manière très, très directe mais grossière avec je sais pas une salle de sport
Oui, vous rechargez les batteries
voilà
j'avais pensé à un bar
ou un bar
où c'est des vœux pour me ressourcer voilà.
Donc pensez c'est à ça, ça c'est une thèse. L'autre thèse serait où est-ce que le jardin aujourd'hui devrait être un modèle pour l'avenir de la vie humaine sur Terre. Qu'est-ce que pour nous un jardin ?
Un espace végétal délimité qui implique l'intervention de l'homme, l'intervention humaine.
Avec d'autres différentes fonctions. Ce n'est pas seulement l'homme qui agit sur le jardin, mais le jardin agit sur l'homme.
Et on a dit que le jardin permettait de satisfaire des besoins. Alors.
Ça reprend aux besoins de survie et aux besoins de vie. Et en tant que la vie est plus que la survie.
Est-ce qu'un jardin peut nous apporter quelque chose de négatif ?
On fait le jardin. Et quand on fait le jardin, c'est pas forcément positif.
On avait vu que c'était vraiment la panacée à l'ensemble de ces besoins.
Tout le monde est d'accord ?
Parce que ça répond pas plus simple aux besoins de voyager, d'aller à la rencontre d'autres peuples.
Quand tu parles d'aller vers les autochtones, vers d'autres peuples, etc., c'est de la rencontre. Mmh. Et le jardin permet aussi les rencontres.
Ouais, moi je ne me trouverais pas avec le fait que le jardin réponde à tous ses besoins.
Dis-nous encore un besoin, tu verras qu'on pourra te répondre. Les besoins qui ont été créés de toutes pièces par l'homme, ces besoins-là, il n'y répond pas.
Mais c'est ce que tu dis, fondamentaux, je pense. Ouais. C'est ça
fondamentaux. Le besoin de se reproduire.
De se désirer, de s'aimer, oui, mais pas de se reproduire. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut.
On avait vraiment une définition extensive qui peut aller du jardin potager où, jardin, où la personne seule va produire ses fruits et légumes pour pour manger, quoi. Ça va jusqu'à effectivement le jardin purement esthétique. Oui. Mais qui répond aussi à un besoin fondamental pour être là. La diversité des jardins fait que si on les englobe tous, on répond à quasiment l'ensemble des besoins humains fondamentaux. Quoi.
Au panel le plus large de ces besoins.
Ce qui fait la définition du jardin ne peut pas se réduire à sa matérialité. Parce que sinon, le jardin zen ne répondrait pas à la définition du jardin.
Dans les jardins zen, tu as une reproduction d'un paysage qui est fait par l'homme, qui est conçu par l'homme.
Il y a entre l'homme et l'élément naturel un moment qui est le moment de la culture, le moment où l'homme... fait en quelque sorte civilisation.
Les champs pour faire du blé, je ne sais pas si ce sont des jardins.
Qu'est-ce qui va faire la différence entre un jardin et un champ d'OGM ?
Parce que le champ d'OGM, il répond qu'à un seul besoin, qui est le besoin
officiel. Oui, mais du coup, par rapport à ça, on s'était dit, dans ce cas-là, les jardins zen...
Non, parce que les jardins zen, on a fait, je pense, un peu... Si on met toute une série de besoins dans l'aspect spirituel, oui. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a des sous... Enfin, c'est plus que des sous-segmentations, parce que le fait de se balader, juste, est-ce que c'est vraiment que spirituel ? C'est se détendre, mais c'est pas sous l'aspect spiritualité. Et du coup, ça fait quand même plusieurs besoins, alors que la nourriture, c'est un besoin.
Dans les jardins, pour moi, il y a cette idée de reconstitution d'un environnement originaire.
En fait, la différence entre vouloir retourner à un état originaire, c'est que dans le jardin va se tisser une histoire. Une histoire entre des êtres qui eux-mêmes vont avoir une histoire, et que nous, on va avoir une histoire avec cette terre-là qui va se transformer, alors que le temps dont tu parles, c'est un temps d'avant l'histoire. Là, il y a l'idée d'un jardin dans la cité, un jardin qui se nourrit de la vitalité aussi des relations dans la cité.
On est originaire de cette matière, de ce minéral, de ce végétal dans lequel on a vécu de manière beaucoup plus brute qu'aujourd'hui.
C'est ça, donc quoi, il peut y avoir de la violence aussi.
Bien sûr.
Voilà.
Ça fait partie de la vie, ça vient de la source aussi.
À partir du moment où il a été délimité, qu'on l'a baptisé, et qu'on a dit, ceci est un jardin, ceci est mon jardin, ceci est le jardin des Carmes.
Il n'y a pas un concept dans ce que tu évoques d'identité, enfin, ça viendrait de dire un espace identifié.
Avec des relations d'attachement aussi, parce que un sol que tu traverses et que, avec une machine OGM, je ne sais pas si tu as un attachement à ton champ.
L'identité, en fait, quand on réfléchit, il n'y en a pas deux pareilles. Même si deux parcelles sont côte à côte, deux jardiniers ne vont pas du tout le cultiver de la même façon. Ouais. Donc c'est vraiment, il n'y a pas deux jardins qui existent dans le monde qui sont identiques.
Des espaces cultivés, délimités.
Singulier,
permettant aux êtres humains de répondre au panel le plus large de leurs besoins. Ok.
De toute façon, chacun a son image en sa tête. On peut pas.
Quoi ?
Chacun. On s'est rapproché le plus près de ce qu'on pouvait rassembler, mais je veux dire, je crois que chacun a sa petite.
Non, mais c'est qu'un des exemples qui illustre.
Ici, l'idée, c'est qu'on est quand même tous. Qu'on parte là bientôt avec tous cette idée commune. Une fois qu'on a défini le jardin, l'idée c'était de finir sur les enjeux du jardin. Aujourd'hui, pour vous, à partir de cette définition là, si un enfant vient vous dire pourquoi les êtres humains ils font des jardins, pourquoi papy il fait son jardin ?
Voilà.
Ça implique que l'enfant il sait ce que c'est qu'un jardin, mais il se demande pourquoi papy il fait son jardin.
À moi, ça m'a bien un paysan que j'ai rencontré en Calabre qui fait son potager et qui dit, mais m'a dit une phrase qui m'est restée impresse qui dit en fait, je cultive mes plantes. Et même sans les manger, quand je passe à côté, je me sens nourri. T'as pas cette même relation-là, alors que le jardin, c'est vraiment le lieu où t'as cette relation.
Quoi qu'on y fasse au jardin, on se recharge, on se nourrit, même dans le travail.
Peut-être c'est juste un miroir de soi pour apprendre ce que c'est qu'un être humain, quoi.
Je dirais que le jardin, pourquoi ? Parce qu'il nous nourrit. Je reviens sur ce que tu disais, il ne nourrit pas forcément physiquement, mais il nourrit d'une autre façon, d'une façon plus large, et il nourrit pas seulement nous, mais il nourrit les insectes, il nourrit les oiseaux, il nourrit les arbres, c'est un jardin nourricier. La première fois que je suis venue au jardin, on me l'a présenté comme un jardin nourricier, mais je n'ai pas tout de suite compris ce que ça voulait dire nourricier, mais c'était une définition beaucoup plus large de la nourriture. Ça nourrit des vivants.
Un côté maternel.
Ouais, c'est Gaïa. Ce qui est étonnant pour moi, c'est que le mot jardin lui-même délivre déjà par lui-même une bienfaisance.
Peut-être c'est nos corps qui répondent d'une façon hormonale au contact avec la nature, parce que bien sûr, on vient de la nature.
Essayer de faire une expérience de pensée individuellement, si je pouvais m'adresser. à l'humanité entière, là, comme ça, directement. Avoir ces 8 milliards d'individus là qui n'écouteraient que moi, qu'est-ce que je leur dirais en fait pour, voilà, pour leur transmettre votre idée en tout cas individuellement là maintenant hein. Alors en rapport avec le jardin bien sûr aussi.
C'est comme il y a une sorte de préoccupation, on est tous dans une sorte de préoccupation, d'urgence, de comment on se relation à ce jardin. Et ce jardin, c'est un lieu de complexité des relations. Donc la question fondamentale, c'est quelle priorité, quel ordre de priorité on a dans l'organisation de ce jardin.
Notre terre.
On pourrait chacune commencer notre phrase par faites de la terre un jardin pour
une meilleure écoute et compréhension de la vaste complexité des processus naturels.
Après l'observation, c'est contribuer à l'harmonie des êtres vivants.
Moi, je dirais pour y célébrer la vie.
Pour honorer et célébrer le vivant, deux points, le jardin, notre double. J'aime
beaucoup. C'est peut-être en faisant appel au cinq sens des gens, et en les foutant dans le jardin, en les invitant, pour qu'ils ressentent les choses et les voient et les constatent.
Alors là, l'empreinte CO2, c'est
pour les 8 milliards.
Pour les 8 milliards personnes au jardin américain.
Ça rentre, hein, on a le voilà.
J'inviterai chaque personne à se faire jardinier. Ça veut dire, pour moi, rentrer dans la temporalité de la plante, de l'arbre, c'est-à-dire considérer que on vit à plusieurs niveaux de temporalité et que la temporalité du net n'est pas l'alpha et l'oméga de la temporalité, donc d'entrer dans des sédimentations temporelles plus profondes que celles de nos machines et de nos pensées. Et puis aussi, j'inviterai à chacun à rentrer dans ce que tu disais, la singularité, de donner un nom à une rose ou quelque chose qui voit, si je m'attache à une rose en disant cette rose c'est elle, je ne pourrais pas demain ignorer la singularité de l'être humain que je vais croiser.
En positif ou en négatif, c'est question de sens, hein. ne faites pas sur terre ce que vous ne faites, ce que vous ne feriez pas dans votre jardin.
Ouais.
Vous faites sur terre ce que vous feriez dans votre jardin.
Ouais,
avec derrière le respect du territoire et de la zone, voilà.
Ouais.
et l'aspect un peu de symbiose qui pousse à peut-être exploiter, mais pas surexploiter. À trouver un équilibre en fait, en gros, parce que je pense que dans son jardin, personne ne veut avoir un jardin poubelle, quoi. Personne veut avoir un jardin complètement mort parce qu'il l'a surexploité.
Oui.
À partir du moment où la chose elle nous appartient, elle en vient du coup un peu à l'appartenance,
oui.
On y prête une attention peut-être plus grande.
Pour que la vie continue, parce que voilà, sinon on peut s'éteindre. Hein.
Oui.
Donc vraiment la vie au sens large, enfin, continue et puis évolue aussi, parce que je crois qu'un jardin c'est toujours une évolution, c'est pas quelque chose de statique.
Oui.
Et du coup, l'homme aussi, il doit continuer à évoluer aussi.
Je pense qu'on est un peu dans dans ce moment-là de notre histoire, quoi, de savoir si on continue finalement, entre guillemets, à cultiver notre jardin dans notre coin, ou si on passe à une échelle un peu plus... à une dynamique peut-être un peu plus...
planétaire.
Ah ouais, mais en fait, on est tous gardiens du vivant. Le jardin, à sa place...
Dans la cité, et donc qui peut être un réservoir imaginaire. Nos narrations, elles vont être de plus en plus citadines, et si dans ces narrations il y a du jardin, ça va abreuver de nature les expériences citadines.
Et là, c'est peut-être le nouveau cheval de Troie.
Pour moi, il faut qu'il y ait les deux choses. Si la terre maintenant il est dans ces conditions, c'est parce que on est tous habités, en quelque façon, par une déchirure entre le vivant et l'humain. En quelque façon, il y a une zone dans laquelle il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, en quelque façon, on doit travailler dans notre jardin pour soigner la concause qui est nous de ce grand problème. Et travailler dans le partage avec les autres, dans la relation, dans l'échange pour bouquet, ça fasse boule de neige.
On remet le rôle de l'individu et son impact sur le global.
Ben, c'est-à-dire de travailler sa propre, son propre rapport aux limites.
Jardiner
jardine-toi.
Pour jardiner le monde.
Oui, jardiner le monde. Bon, ben, on va rester là. On ne peut pas plus.